Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 2010, Michel Simon consacrait une projection privée à Koji Wakamatsu. Pour parler du réalisateur de Sex Jack, il recevait Julien Sévéon, Jean-Baptiste Torret et Mathieu Capelle. C'était à l'occasion de la sortie de son film « Le soldat Dieu » et de la rétrospective « Koji Wakamatsu, l'insurrection lyrique » que programmait la Cinémathèque. « Je suis devenu réalisateur pour révéler comment le pouvoir peut exercer son autorité de manière brutale. Mais aussi parce que c'est un métier qui permet de tuer des policiers sans aller en tôle », dixit Wakamatsu. Une prime jeunesse de petits voyous, un passage par la case prison, un long parcours dans le cinéma pink, sous-genre érotique japonais, des penchants politiques plus que radicaux et des films sans concession. On pourrait être tenté de résumer Wakamatsu, disparu en 2012, en le qualifiant de bad boy du cinéma japonais. Cela ne dirait pourtant rien d'un cinéaste qui, pour le directeur de la programmation de la Cinémathèque Jean-François Roger, aura exemplairement incarné ce point de jonction inaccessible et impensable dans la plupart des cinématographies entre le cinéma d'exploitation et une forme d'avant-garde à la fois esthétique et politique.
Projection privée. Bonjour, cette émission sera consacrée à un cinéaste japonais qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, bien qu'on n'en ait pas tellement parlé dans le passé, Koji Wakamatsu, donc cinéaste japonais dont un des films, le tout dernier, Le soldat Dieu, sort en salle, il est sorti donc il y a une semaine, et également la publication en coffret d'une douzaine de ses films, en trois coffrets, aux éditions Blackout, et tandis que la Cinémathèque lui consacre une rétrospective qui va se terminer le 19 janvier et qui est donc en cours. Pour en parler, j'ai invité trois spécialistes du cinéma japonais et de Wakamatsu. Jean-Baptiste Torret, qui est un des auteurs d'un livre, Wakamatsu, cinéaste de la révolte, aux éditions IMO, qui inclut d'ailleurs un DVD, c'est une bonne initiative, les éditeurs font ça de plus en plus souvent, La femme qui voulait mourir, qui ne se trouve pas dans les trois coffrets publiés par Blackout. Mathieu Capelle, qui est un spécialiste du cinéma japonais et qui connaît bien l'œuvre de Koji Wakamatsu, et Julien Sévéon, qui vient de publier un livre chez Rouge Profond, Le cinéma enragé au Japon, qui ne concerne pas seulement Wakamatsu, mais Wakamatsu en est la colonne vertébrale, si j'ose dire, et avant qu'elle soit cassée, mais qui donc consacre de très longues pages, de nombreuses pages à ce cinéaste. Alors, on pourrait commencer déjà par ce film, Le soldat Dieu, présenté au Festival de Berlin, couronné par le prix de la meilleure interprétation féminine, qui est un des films de Wakamatsu récents, parce que ce qui frappe tout de même pour l'observateur qui n'est pas spécialiste, c'est que Wakamatsu avait une production considérable dans les années 60-70, parfois 7 films ou 8 films même par an. Il ne sait même plus compter d'ailleurs le nombre de ses films, il a lancé le chiffre de 140, mais qui étaient des films un peu des pornos soft, ou en tout cas on les appelait les pink films. Par contre, sa production récente est extrêmement espacée. On avait vu un documentaire tout à fait extraordinaire sur United Red Army, sur les groupes violents d'extrême-gauche japonais dont il a fait partie plus ou moins, et qu'il remettait en cause d'une certaine façon, même s'il le nie, mais en tout cas c'était une critique de la paranoïa de cette époque et de ces groupes d'extrême-gauche. Et puis, Ce soldat Dieu, mais depuis une dizaine d'années, la production a beaucoup ralenti. Comment expliquez-vous cela, Julien Sévéon?
Il a commencé à tourner donc dans les années 60, où c'était une période très faste pour une production indépendante, érotique. Il s'est retrouvé un petit peu dans le monde du cinéma érotique par hasard d'une certaine façon, parce que c'était ce qui lui permettait de tourner le plus facilement avec des budgets très très limités. Donc c'est un véritable amoureux du cinéma de genre, même si actuellement on va dire qu'il y a une sorte de il essaye avec certaines personnes de réinterpréter son image, on va dire. On le voit certaines fois un petit peu renier un petit peu ce passé, mais ce passé est vraiment très important parce qu'il le cinéma érotique qu'il produisait et qu'il tournait à l'époque était tout à fait unique dans le contexte de la production japonaise, c'est-à-dire qu'il y avait une très très grosse production érotique dans les années 60-70, mais qui était relativement plate. C'était des films de fesses, tout ce qu'il y a de plus classique. Et lui arrivait avec un regard tout à fait novateur. Il tournait de manière éclair, sans autorisation. Il évoquait des films, enfin des sujets très 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 en lien avec ce qui se passait à l'époque au Japon, qui était vraiment une période très tumultueuse, la fin des années 60.
Oui, mais ça n'explique pas, si vous voulez, ce ralentissement considérable de sa production. Alors,
le changement, en fait, c'est que le cinéma pink, à la fin des années 70, a commencé à perdre énormément d'audience. Lui a commencé à se tourner vers d'autres genres, le Yakuza Ega... des films un peu plus intimistes, on va dire. Et petit à petit, il a commencé à s'intéresser de plus en plus à la production. Il a aidé énormément de jeunes réalisateurs japonais indépendants. Et puis, comme son sacerdoce, entre guillemets, du cinéma érotique, il n'y avait plus de moyens de distribuer. Les salles érotiques au Japon ont diminué énormément. Donc, il avait plus vraiment de marché. Ses films, entre guillemets, plus autorisants n'ont pas fonctionné, comme un film comme Pool Without Water, qui a été une très grosse déception pour lui. C'est vraiment un film auquel il tient beaucoup. Il espérait pouvoir le vendre en Occident. Ça a été un flop complet. Et petit à petit, donc, il s'est retiré un petit peu de tout ce cinéma pour revenir vraiment en force avec United Red Army il n'y a pas longtemps.
Et donc ce Soldat Dieu, alors qui est un film, on l'a comparé à mon avis justement parce que c'est beaucoup plus ample finalement comme réflexion à Johnny s'en va en guerre, le célèbre roman puis film de Dalton Trumbo sur cet homme tronc handicapé qui a perdu tous ses membres, etc. Bon, c'est le même type de situation, mais sauf que le film de Wakamatsu devient une réflexion aussi sur l'impérialisme japonais, sur le nationalisme, sur le culte de la virilité, du militarisme, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement une histoire très forte individuelle, puisque en plus ce personnage principal est marié et aussi très exigeant sexuellement, alors qu'il est réduit à un état presque de larve. Donc ça devient aussi non seulement une histoire intime, mais aussi une histoire collective. On peut y voir des rapports avec, par exemple, l'œuvre d'un Buñuel ou l'œuvre d'un Imamura, si on reste dans le cinéma japonais. Jean-Baptiste Auré.
Oui, mais alors, en fait, avant de parler plus précisément du Soldat Dieu, moi, ce qui me semble très intéressant dans le cas de Wakamatsu, en tout cas des films que j'ai pu voir, parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a sans doute une centaine de films, et aujourd'hui, on a accès, en gros, à une trentaine de films, et grâce notamment au travail de Blackout, c'est que, effectivement, on peut se demander, pour quelles raisons, finalement, les films de Wakamatsu sont devenus un peu plus rares, en gros, à partir de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui, chacun de ces films fait beaucoup plus événement, et notamment depuis la première sortie en France de L'Embryon en 2007, il faut quand même rappeler que c'est un film qui date de 66 et qui sort de sortir en France en 2007.
Et qui appartient à sa période pink.
Absolument. United Red Army, qui est le film qui, on pourrait dire, qui a transformé l'essai wakamatsien auprès de la critique plus institutionnelle. Hein, c'est-à-dire que jusque-là, Wakamatsu était quelqu'un de relativement confidentiel. Et aujourd'hui, le Soldat Dieu. Je pense que, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Wakamatsu en fait explose, devient extrêmement prolifique et se tarit peu à peu, hein, non pas en termes d'inspiration, mais en termes presque de place à l'intérieur du système, c'est qu'il apparaît évidemment à une période qui est la fin des années 60, on pourrait dire, où le monde entier, que ce soit le cinéma italien, le cinéma américain, le cinéma japonais, vibrionne des mouvements contestataires. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est qu'il y a évidemment, c'est souvent la chance d'un cinéaste, c'est d'arriver au bon moment. Et ce bon moment dans le cinéma mondial, c'est la fin des années 60, où ça a encore un sens de faire des films en marge. La question de la subversion, de la provocation, de la transgression des tabou. Évidemment, dans les années 60, ça a un sens aussi bien au Japon, en Italie qu'aux États-Unis. 40 ans plus tard, l'opposition, la subversion a complètement intégré le cœur du système. Aujourd'hui, il suffit de voir le moindre blockbuster hollywoodien pour voir que la plupart de ces films-là défendent un discours que ne renierait pas, je sais pas, Attaque en France ou les mouvements écolos les plus radicaux. Donc le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la subversion de Wakamatsu, en tout cas à la mode des années 60, ou bien il tenterait effectivement de s'en servir comme d'un fonds de commerce, quitte à paraître complètement daté. À quoi ça rimerait aujourd'hui de faire un film comme L'Embryon, L'Extase des gens, Sex Jack, etc., lorsqu'on sait qu'en fait toutes ces leçons ont été complètement absorbées par les films mainstream, pour l'essentiel. Donc évidemment, lui va vers une forme de mise en scène presque qui a l'air plus classique. Mais Le Soldat Dieu, alors, en deux mots sur ce film, qui a l'air effectivement plus classique, on pourrait presque dire plus sage, plus fatigué. Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est une sorte presque de faux remake de Quand l'embryon part braconner, une espèce de huis clos entre un homme et une femme. Un homme qui, en dépit du fait qu'il n'a plus aucun de ses membres, sauf le cinquième, qui devient extrêmement actif, va quand même tenter d'imposer, évidemment, sa loi auprès de cette femme, lui imposer notamment des relations sexuelles. Il y a quand même des séquences absolument hallucinantes où on voit cette femme, alors qu'il n'y a pas de réciprocité évidemment du désir, tenter de faire l'amour à cette espèce de larve humaine défigurée. Alors contrairement à Johnny Got His Gun ou à d'autres, je pensais beaucoup notamment à Né un 4 juillet, ça emprunte pas du tout, on pourrait dire la voix on pourrait dire ou bien doloriste ou mélo, tout simplement de la trajectoire de ce personnage-là, puisque le personnage non seulement a été mutilé à cause de la guerre, évidemment, il revient de là mutilé, et il est célébré d'ailleurs comme tel, il a donné tous ses membres, on pourrait presque dire au divin, et en même temps, c'est un personnage dont on apprend très très vite qu'il a violé, là on pense à des films comme Croix de fer de Peckinpah, etc., qu'il a violé des femmes au moment de la guerre. Donc on n'a aucune compassion finalement, et le film bascule très rapidement vers le personnage de la femme qui va continuer en fait sur le tatami, une espèce de guerre qui a lieu entre à la fois la Chine et le Japon, entre les bourreaux et les victimes, entre l'homme et la femme.
Oui, alors c'est ça qui est très frappant, c'est qu'en fait, il continue son combat. C'est-à-dire c'est un homme qui a toujours été hostile à l'opinion dominante, et particulièrement quand il s'agit de la guerre, on sait que le Japon, à la différence de l'Allemagne, n'a jamais fait le bilan de ses crimes, n'a jamais fait de procès de gens qui ont exterminé des millions de gens en Asie. Enfin, pour l'Asie, le Japon est ce qu'a été l'Allemagne pour l'Europe, peut-être encore, si j'ose dire, encore pire. Mathieu Cabel, dans ce film, on voit une critique de cette idéologie dominante de la nation, comme vous le disiez, Jean-Baptiste Auré, une des premières séquences du film, c'est le viol fait par un soldat japonais, alors que d'ordinaire, les films, en particulier les films américains, Les Guerriers de l'Enfer, Les Plus Belles Années de Notre Vie, Le Retour, enfin tous les grands films américains sur le retour des soldats, ne n'évoquent pas ce genre de choses. Il y avait peut-être guère que le film de Kazan, Les Visiteurs. Voilà. Donc là, il fait vraiment une critique de l'impérialisme, du nationalisme qui n'est rarement, sauf peut-être justement chez Imamura, et encore, qui n'est rarement évoqué dans le cinéma japonais.
Oui, chez Imamura, on l'a trouvé également dès les années 60. C'est l'un des grands chevaux de bataille de la génération dite avec X guillemets de la nouvelle vague, que ce soit de Oshima jusqu'à Yoshida. Toutes les théories qui amènent, qui accompagnent tous ces gens et qui les entraînent après vers la voie du cinéma indépendant, c'est évidemment une critique de cette idéologie-là, pendant les années de guerre, mais aussi celle qui a suivi, celle de l'après-guerre, pendant l'occupation, etc. Ça, c'est évidemment très important. Donc je pense qu'on peut effectivement voir ça chez Imamura, mais ne pas non plus exclure les autres, parce que ça peut être aussi, c'est déjà présent dans un film qui s'appelle Le Piège, par exemple, de Oshima en 61, et qui fait énormément penser justement au Soldat Dieu là de Wakamatsu. En tout cas, il y a une communauté au niveau de la mise en place, au niveau du contexte dans lequel les deux films se passent, qui est, je crois, assez patente. Le Piège, pour situer, et malheureusement c'est un film qui n'est pas disponible en France, mais qui est adapté de la nouvelle Gibier d'élevage de Hoe Kanzaburo, dont le texte, lui, est bel et bien disponible. Voilà l'histoire d'un noir américain, d'un parachutiste noir américain qui se retrouve emprisonné dans un village perdu au beau milieu des montagnes japonaises. Il y a, je crois, une communauté thématique entre le film de Wakamatsu et celui-ci qui est tout à fait évidente. Donc Voilà, je pense que là aussi, le cinéma japonais a une telle richesse que je préfère être prudent avant de dire que ce thème n'a pas été trop abordé. Alors, justement, j'ai eu une petite déception, moi, au sortir du Soldat Dieu. Je crois que le film se serait achevé au terme de ses 50 premières minutes. J'en serais ressorti tout à fait secoué, remué et assez pantelant. Malheureusement, j'ai trouvé que la dernière demi-heure, on va dire, de ce film-là, diluait un petit peu, justement, cette critique de l'impérialisme japonais pour arriver presque à... j'ai envie de dire presque une forme d'angélisme avec voilà une critique de l'absurdité de la guerre. Alors je trouvais qu'au début justement cette situation là de cette larve humaine qui est dont le seul réconfort finalement c'est alors soit faire l'amour avec sa femme soit avoir ses médailles sur le torse et regarder l'article de journal qui parle de lui qui est dûment accroché dans la maison familiale, il y avait quelque chose de terriblement fort, terriblement explicite aussi, et du coup j'ai l'impression que son propos à la fin où il accumule des images d'archives sur Hiroshima, aussi je trouve de façon plus pertinente sur les pendisans de la pendaison de criminels de guerre japonais, je trouve que voilà, il y a une espèce de déplacement, on passe d'une critique de l'impérialisme à une espèce, oui, je dirais, d'angélisme sur l'absurdité et le côté la guerre c'est mal, un petit peu, on a l'impression. Voilà, je trouve ça un petit peu décevant. Et disons, après, bon, évidemment, pour ceux qui connaissent pas Wakamatsu, je pense que le film a un véritable impact. Pour ceux qui ont vu United Red Army juste avant, peut-être y a-t-il aussi, c'est mon cas en tout cas, une forme de déception dans la mesure où United Red Army placer la barre très très haut, je trouvais, en termes de cinéma historique, de reconstitution, en tout cas de façon de remettre en jeu l'histoire d'un pays, l'histoire récente d'un pays, en termes de méthodologie, en termes d'ambition thématique, il y avait dans United Red Army, voilà, je trouvais quelque chose d'assez formidable.
Alors Jean-Baptiste Auré, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, on peut revenir sur ce que vient de dire Mathieu Capel, mais il n'y aurait pas aussi un autre parallèle à faire avec ce film qu'il a produit, qui est L'Empire des Sens, dont ce serait un peu une version grotesque, d'une certaine façon, puisque l'accent mis sur le sexe dans ce film renvoie à l'autre qui était effectivement, qui n'avait pas cette dimension politique, etc. Enfin, certes, tout est politique, comme on disait, mais enfin, L'Empire des Sens n'était pas du tout dans ce contexte de ce dernier film. Mais il y a tout de même un rapport entre les deux films.
Oui, enfin, L'Empire des Sens, c'est quand même un film qui vient après beaucoup, beaucoup de films d'Oshima où ce travail de dénonciation du système politique a été effectué. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend comme ça tel quel L'Empire des Sens, si on n'a pas en tête à la fois les films d'Oshima qui précèdent et la jeunesse de ce film, effectivement, on peut penser que c'est un film qui va révéler le sexe explicite, etc., une sorte de super pinkou d'auteur, ce qui est quand même pas le cas du tout. Il y a quand même un cinéma d'Oshima qui précède L'Empire des Sens. Alors, le fait que vous ayez employé le mot grotesque est important parce que moi, c'est précisément en fait le grotesque du Soldat Dieu qui le prémunit pour moi des dérives qui étaient contenues dans United Red Army. C'est-à-dire que United Red Army, qui est selon moi un film formidable, mais qui, alors là, pour le coup, il y a aussi un beau spectateur, spécialiste, expert du cinéma japonais, ce que je ne suis pas. Il y a quand même des moments où on est face à un rapport moral à un film. United Red Army me semblait par moments frôlé, dangereusement. Avec une espèce de confusion classique, donc on pourrait dire dans le cinéma politique ou militant. Alors il faudrait distinguer ces différents termes parce que c'est pas la même chose du tout. Wakamatsu est, on pourrait dire, est moins performant lorsqu'il devient militant, lorsqu'il devient didactique. Et c'est effectivement le surgissement des images d'archives dans Le Soldat Dieu, on pourrait dire que c'est un vieutique de son cinéma. Oui, oui. Enfin, Staline, les photos de secret derrière les murs. Voilà, il y a ce moment où on aimerait, c'est comme dans le film de Gaspard Noé, on aimerait qu'il ne mette pas ses cartons. Le temps détruit tout et ce carton qui détruit presque le film à son corps défendant. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on aurait presque envie parfois de remonter, c'est sacrilège que je dis évidemment, mais de remonter certains films de Wakamatsu en supprimant ce côté un peu, voilà, les images d'archives. Je suis d'accord. Cela dit, Il y a précisément pas de grotesque dans Red Army, c'est-à-dire qu'il y a ce risque à un moment donné de confusion que j'ai ressenti en tant que spectateur, tout simplement extrêmement fort, entre d'un côté effectivement le terrorisme et le romantisme, une forme de violence où on a le sentiment par moment dans le film que la distinction est plus du tout entre, à l'intérieur hein, évidemment de ce que raconte Wakamatsu, c'est-à-dire entre, on pourrait presque dire, une violence autorisée d'une violence qui serait une violence illégale, mais entre des révolutions qui marchent et des révolutions qui ne marchent pas. Et je pense qu'il y a effectivement un sérieux, hein, qui est terrorisant, effrayant de Red Army, qui fait qu'il n'emprunte pas la voie du grotesque du soldat Dieu, qui justement prémunit contre, à mon avis, toute forme d'identification. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, dans Soldat Dieu, alors là, pour le coup, c'est son côté pasolinien, précisément. Son côté salaud, son côté porcherie, ça devient grotesque, jusqu'à cette larve qui court, qui court, beau lapsus, qui rampe.
Oui, hein, c'est d'ailleurs le titre anglais, c'est Caterpillar.
Absolument.
C'est-à-dire la chenille. Anglais et japonais, hein, la chenille.
Vraiment. La chenille. Voilà. Une chenille qui ne se transforme pas, qui reste transforme. Chenille.
Absolument. Mais ce qui est très beau, c'est qu'à la fin du film, on sent que le film est d'abord sur un terrain, on pourrait dire critique, c'est les 50 premières minutes du film dont vous parlez, effectivement, et ensuite, hein, comme une sorte, on pourrait presque dire, d'antidote, hein, au risque d'identification, hein, on passe dans la voie grotesque. Ce qui manquait, à mon avis, à Red Army, en bout de course, après les 2h40 ou 45 que dure le film.
3h10.
Hein, 3h10. On a presque le sentiment, par moment, et je pense que Wakamatsu ne sait pas lui-même, hein, il met en scène cette ambiguïté-là, hein, à la fois partenaire de combat, c'est le Wakamatsu des années 60, qui se revoit 40 ans plus tard, et qui ne sait pas, hein, si finalement l'autocritique, cette espèce de purge stalinienne, c'est bien ou pas bien. Hein, et je pense que le grotesque, pour le coup, est très très important. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est très content de voir arriver Pasolini, voire Buñuel. Hein, effectivement, c'est ce bourreau qui louche à la fin de Salo. Comment s'identifier à cet homme-là? Par contre, il n'y a pas ça de Red Army. Voilà, c'est pour moi le bémol. Si, en tout cas, c'est là où je pense que le soldat Dieu marque des points. Peut-être qu'il il en perd à d'autres niveaux, mais là où il marque des points par rapport à une Red Army, c'est vraiment sur le fait qu'il embrasse le grotesque à un moment donné.
Alors voilà, Wakamatsu divise même ses admirateurs. Julien Sévéan.
Et il faut voir que le matériel de base sur United Red Army et Caterpillar est totalement différent. Pour United Army, il s'inspire véritablement de faits historiques concrets. Alors que pour Caterpillar, il s'inspire d'une nouvelle d'Edogawa Rampo, donc qui était le maître, justement, on parle de grotesque, d'érotique grotesque. C'était un écrivain qui a œuvré dans les années 30 et qui a été vraiment très important pour toute la génération post-années 50, donc il y a eu énormément de réalisateurs qui se sont inspirés de son travail, dont l'un des descendants spirituels de Wakamatsu, Isayasu Sato, qui a réalisé une adaptation très fidèle de cette nouvelle il y a de ça peu de temps. Et en fait, il faut bien voir que l'univers d'Edogawa Rampo est énormément différent de ce que pouvait faire Wakamatsu avec un film comme United Red Army. Le côté grotesque est essentiel chez Rampo. Donc je pense que c'est ça qui crée aussi deux films totalement différents, mais c'est aussi totalement assumé de la part de Wakamatsu. Wakamatsu est véritablement un adepte d'Edogawa Rampo. Ça fait partie des écrivains qui ont vraiment marqué, pas forcément son travail, mais en tout cas l'homme, tout du moins l'homme. Et il cherchait depuis un petit moment, en tout cas, à adapter fidèlement une de ses nouvelles. Alors il l'a fait en incorporant dans ce film, en insistant beaucoup plus sur l'aspect politique, qui était totalement absent de la nouvelle de Rampo, qui racontait juste, en fait, effectivement, cet homme qui revient de guerre, qui est complètement handicapé, et qui insistait beaucoup sur les rapports sexuels, frôlant le SM avec sa femme. Donc lui a incorporé derrière un travail qui est, pour moi, qui reste est très subversif vu l'état actuel de la société japonaise, où quand même le révisionnisme fait un retour en force depuis une bonne quinzaine d'années, où il se permet de montrer frontalement ce que l'armée japonaise a pu faire un peu partout aux quatre coins de l'Asie, notamment les viols, les femmes de confort, qui est vraiment un des sujets absolument tabous actuellement au Japon. Donc qu'il ose aborder ça frontalement dans un film, ça le place totalement à part de tout ce qui a pu se faire avant, que ce soit Oshima ou que ce soit d'autres réalisateurs japonais qui ont abordé le thème de l'impérialisme, mais jamais aussi radicalement que Wakamatsu a pu le faire. Même son film United Red Army, comparé à d'autres films qui ont été faits sur le même sujet, notamment Choice of Hercules, qui racontait en fait la prise d'otage de la de, du d'Osama du point de vue des policiers. Lui, justement, ne veut pas donner le point de vue de la police. Il veut essayer de comprendre pourquoi...
Osama, c'était quoi? C'était l'hôtel qui
c'était, oui, c'est ça, le chalet.
Oui, mais on peut peut-être l'expliquer pour nos
auditeurs. C'était, en fait, c'est vraiment le ce qui a marqué un peu la fin de l'armée rouge japonaise, enfin, la branche japonaise, tout au moins, où après une scission, une partie des militants se sont enfermés dans le chalet et ont pris en otage la femme du propriétaire et se sont livrés à une espèce de guerre avec la police. Donc ça a été vraiment en fait déterminant pour l'extrême gauche à la fin des années 60 au Japon. Ça a vraiment marqué l'éclatement en fait du tout mouvement révolutionnaire au Japon. C'est une date très importante et qu'un réalisateur comme Wakamatsu s'y attaque et montre un petit peu l'envers du décor, c'était quelque chose de très important pour toute la génération de la fin des années 60 qui ont vécu en fait ces événements comme un véritable drame intime, comme aussi beaucoup ont renié en fait leur engagement politique suite à cette affaire. Et Wakamatsu a été un des seuls, même il le dit à l'époque, j'en avais discuté avec lui, il a été le seul à le dire à l'époque à ne pas cracher sur ces jeunes. C'est-à-dire que même toute la branche communiste dure, à énormément de personnes, même qui étaient dans le cinéma, ont renié tout mouvement étudiant. Lui a dit... Ce qu'ils ont fait n'était pas bien, parce qu'en plus, il avait une de ses amies qui a été tuée dans ce chalet. C'est-à-dire qu'il était complètement choqué par ce qui s'était passé, mais d'un autre côté, il comprenait tout à fait encore totalement la révolte de ces jeunes. Et ce qui est totalement unique dans le cas du cinéma japonais.
Mathieu Capel, il faudrait, d'ailleurs Julien Sébillon le fait dans son livre, Le cinéma enragé au Japon, situer aussi, resituer ces films pink, violents, politiques et sexuels avec le contexte historique du Japon de l'époque, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, la normalisation avec la Corée, enfin, avec la Corée du Sud, etc., les accords avec les États-Unis, enfin, il y avait tout un réseau d'événements historiques, à la fois diplomatiques, militaires, etc., qui expliquent un peu cette révolte.
Oui, il y a un contexte qui est éminemment complexe. Les années 60, c'est une décennie de profonds bouleversements dans la société japonaise. Alors évidemment, comme vous venez de le rappeler, il y avait évidemment tout un sol très propice à la contestation avec la guerre du Vietnam et le Japon qui servait de façon presque unilatérale de base américaine pour les avions et autres porte-avions américains. Avec voilà, dès 1965, il y avait la création du Beiheiren, qui était une organisation de lutte justement contre la guerre au Vietnam au Japon. Il y a évidemment la décennie qui est bornée par deux périodes d'agitation incroyables en 1960 et 1968-70 avec le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain, donc qui assure l'armée américaine d'un certain nombre de bases dans tout l'archipel japonais. Voilà. Donc évidemment, c'est très propice à la contestation et la révolte de Wakamatsu se nourrit, je crois, évidemment, de toutes ces causes, de tous ces motifs. Il faut également voir, à un niveau qui est bien moins spectaculaire, que les années 60, c'est l'accession du Japon à la société de consommation de masse. C'est le début de ce qu'on appelle la haute croissance. Le pays sort officiellement de l'après-guerre en 1955. Et à partir de 1960, c'est l'ère de la consommation de masse dont le moment, l'achèvement et le grand triomphe, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. 1964, c'est justement la période à laquelle apparaît Wakamatsu dans le cadre du cinéma pink. Ce que dit aussi tous les travaux, la façon dont ces Jeux Olympiques ont complètement bouleversé la carte et le paysage japonais, mais également l'idéologie japonaise, où dans le discours officiel qui est attaché à ces événements-là, c'est le plein retour du Japon dans la communauté internationale, c'est avec la construction de trains, de routes, d'infrastructures absolument énormes qui bouleversent complètement la face du Japon. C'est l'idée d'une espèce de fluidité, de liberté individuelle tout à fait globale au Japon, l'idée d'une unité ethnique également qui est tenue à ça. Et ce discours officiel-là, il est bien évidemment contrecarré dans les faits, mais ce sont, il faut pouvoir le montrer. Et il y a plusieurs, beaucoup de cinéastes vont justement essayer pied à pied de contrecarrer ce discours officiel. Et il me semble que Wakamatsu, d'une part, en investissant, on pourrait dire, les basses couches de cette société qui a l'air tellement féerique, d'un coup, essaye de la retourner complètement. Mais également, il y a toute cette question d'enfermement qui est très, qui est consubstantielle au cinéma de Wakamatsu. Cette question également d'exclusion, la question du paria dans le cinéma de Wakamatsu est aussi très importante. Donc, je crois effectivement que il faut voir dans ce contexte-là de deux extrêmes. Effectivement, la contestation étudiante ou pas, qui est donc dont Wakamatsu est l'un l'un de ceux qui a le mieux rendu compte, sans doute, et aussi, de façon bien moins spectaculaire, un bouleversement profond du Japon.
Alors, pour terminer peut-être sur cet aspect, disons, politique, idéologique, Jean-Baptiste Auré, moi, ce qui me frappe, c'est que ces mouvements ultra-violents se produisent de l'extrême-gauche, se produisent uniquement, enfin, essentiellement, il y a eu un peu aux États-Unis, mais très peu, finalement, par rapport à l'Italie, l'Allemagne et le Japon, c'est-à-dire les Brigades Rouges, l'armée rouge en Allemagne, la faction armée rouge, et puis l'United Red Army, justement, au Japon, c'est que ça vient de pays anciennement nazis ou fascistes. C'est-à-dire que, comme si les petits-enfants reproduisaient la violence, elle se situe à l'extrême gauche, l'autre était à l'extrême droite, mais c'est une sorte de violence aveugle, et ça ne s'est développé que dans les pays qui avaient été totalitaires, alors que pratiquement on peut dire que la France, l'Angleterre, les pays scandinaves, l'Amérique, qui sont des démocraties, qui n'ont pas connu de... Si bon, la France a connu un régime fascisme, enfin c'était plus ou moins imposé. Là, il n'y a pas eu des choses de ce genre. Si, les intellectuels comme Genet, comme Sartre, ont applaudi ces actions ultra-violentes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de soutien véritable. Comment expliquer ça? C'est une chose qu'on ne soulève presque jamais. Alors, vous dites dans votre essai dans le livre Cinéaste de la révolte, Koji Wakamatsu, vous parlez justement de ces contestataires, de ces étudiants, de ces jeunes contestataires. Vous dites qu'ils reproduisaient les schémas des régimes tyranniques et antidémocratiques contre lesquels ils s'étaient dressés. Alors, j'ai pas compris très bien, parce que les régimes tyranniques et antidémocratiques, on pourrait penser à l'Allemagne nazie, au Japon féodal, mais pas tout de même à la démocratie japonaise qui a eu des défauts, mais qu'on peut tout de même, que c'est tout de même un progrès par rapport, enfin, les Américains ont établi une démocratie au Japon, comme d'ailleurs en Allemagne, alors que c'était pas tellement la caractéristique de la vie politique japonaise jusqu'en 45.
Oui, ben, à mon avis, il y a plusieurs choses à dire à ce propos. La première, alors évidemment, enfin, la première, c'est que Mathieu Capel vient de relever la dimension à la fois subversive, politique, le contexte, les jeux de Tokyo, etc. En même temps, au même moment, partout. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours pareil. C'est quand il faut évidemment parler de Wakamatsu, du cinéma japonais, de ce qui se passe à côté. Hein, c'est aussi des gens qui voient le cinéma américain, français, Godard, qui voient la chinoise. Sûr, ouais. Bon, ils sont pas dans leur petite bulle. Ils ont beau faire des films claustrophiles, il n'empêche que ce sont quand même des gens un peu ouverts. Il se passe à peu près la même chose, évidemment, partout au même moment. Donc évidemment, ça c'est quand même quelque chose d'important quand même à noter. Hein, c'est cette idée qu'il y a une internationale de la révolte ou de la subversion à ce moment-là. Et moi, ce que je trouve évidemment passionnant chez Wakamatsu, c'est que c'est quelqu'un qui, comme on retrouve ça dans le cinéma américain, dans les bons films américains de la fin des années 60, qui a conscience très tôt que ce mouvement de révolte, en fait, échoue. Et moi, ce que je trouve extraordinaire chez Wakamatsu, d'ailleurs, c'est ce qui en fait qu'on peut revoir aujourd'hui ces films, y compris ces films qu'on pourrait juger extrêmement datés, cette espèce d'opposition parfois un peu radicale. Évidemment, le système comme un régime tyrannique, hein, lorsqu'on voit les films de Wakamatsu, que ce soit, je pense à Shinjuku Mad ou à Sex Jack, on voit très très bien qu'il y a une radicalisation, hein, où on est du côté, il y avait le pig aux États-Unis lorsqu'il s'agissait de parler de la police, on a à peu près la même chose là, hein, dans le cinéma de Wakamatsu. Mais ce que je trouve moi le plus intéressant, c'est qu'au fond, très très vite, il abandonne cette espèce de naïveté selon laquelle, effectivement, une série de groupuscules révolutionnaires, d'étudiants contestataires, etc., pourraient renverser le système. Donc son sujet, ce n'est plus et très rapidement, faisons des films pour renverser le système, hein, sortons dans la rue, posons des bombes, etc., etc. C'est plutôt pour quelles raisons ça marche pas. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement typique de tous les bons cinémas contestataires de la fin des années 60. Hein. Effectivement, on pourrait dire qu'elle a le chalet d'Assama en 72. C'est en gros l'équivalent dans l'histoire du Japon, enfin de la contestation japonaise, l'équivalent de ce qu'a pu être l'assassinat de Robert Kennedy en 68 ou l'affaire Charles Manson en 69. C'est quelque chose d'un seul coup qui met fin brutalement à la possibilité de convertir la question de la révolte. Donc les cinémas de Wakame Matsu, c'est à la fois effectivement une espèce d'ode, d'hymne à la révolte, à l'insoumission, etc., etc. Mais pour moi, enfin quand je revois ces films aujourd'hui, j'ai surtout le sentiment que c'est une espèce d'une tentative, mais en même temps enragée, de comprendre pourquoi cette révolte n'a pas marché.
Alors, oui, avec, si je peux me permettre, j'abonde, hein, je souscris évidemment à ce que vient de dire Jean-Baptiste Torret, ce qui du coup montre bien dans le parcours de Wakamatsu ce qui peut avoir de parfois profondément contradictoire, puisque après avoir tourné des films justement comme Sex Jack, où on voit bien que oui, effectivement, le constat que semble dresser Wakamatsu, c'est bien celui d'un échec. Et pourtant, en 1970, il part à Cannes, fait un tour au Liban et en Palestine, et livre en 71 un film, FPLP, Armée Rouge, FPLP, Déclaration de Guerre Mondiale, qui est... Outre qu'il est aujourd'hui un document assez important justement des premières années de lutte du FPLP, où on voit justement des choses, je crois que c'est assez unique hein, dans le corpus cinématographique mondial, mais c'est aussi un film qui est tout simplement un film de propagande pro-international communiste et de soutien à l'armée rouge japonaise. Donc il y a aussi, là je trouve, une profonde contradiction. Que peut-être
Il rejoint à la même époque Godard, parce que le film de Godard sur la Palestine, c'est exactement contemporain. Julien Sévillon, peut-être il faudrait citer alors cet écrivain qui a eu une très grande importance, ce scénariste, Masao Adachi, qui a eu une très grande importance comme compagnon de route, qui était un peu le Gorin, disons, le Gorin de Wakamatsu, comme il y a eu le Gorin de Godard. Adachi serait le Gorin de Wakamatsu.
Effectivement, enfin, Adachi explique un petit peu certains de ces des problèmes qui viennent d'être évoqués. Wakamatsu lui-même n'a jamais été partisan d'un quelconque groupe ou groupuscule politique. Lui, toujours, ce qui l'a intéressé, c'est l'individu révolté, mais pas l'individu qui se révolte en appartenant à un groupe.
Oui, c'est cette un anarchiste, c'est beaucoup plus un anarchiste.
Il est,
en fait.
C'est plus un anarchiste, mais sans avoir non plus les fondements politiques, c'est-à-dire Bakounine, il se revendique pas du tout, c'est pas un idéologue.
Non, mais l'idéologue, dans son comportement, l'anticollectif,
tout
c'est
à fait.
Quand même une forme d'anarchisme.
L'idéologue, par contre, c'est vraiment Adachi. Lui qui était proche, qui était membre donc de l'armée rouge japonaise, qui était vraiment un intellectuel pur jus, alors que Wakamatsu, lui, était plus quelqu'un d'instinctif. Et les films justement qui se revendiquent, qui sont plus de la propagande pure, sont souvent les travaux qui sont de Adachi. Wakamatsu, lui, à l'époque, était effectivement très il a toujours en fait contesté d'un côté le système et contesté cette notion de révolte groupée sous un drapeau particulier qui soit rouge ou noir finalement. Donc il a effectivement été conscient très rapidement des problèmes que pouvait prendre l'extrême gauche au Japon, tout en soutenant les individus. Mais Adachi, lui, par contre, était quelqu'un qui soutenait vraiment formellement le groupe.
Et d'ailleurs, il l'a laissé en Palestine, parce qu'il est revenu au Japon, et Adachi a continué dans les camps. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde tout de même, parce que c'est même très important dans sa production, c'est même ce qui domine, c'est l'érotisme. Alors, évidemment, chez lui, l'instinct de mort et l'instinct de vie, Eros et Thanatos, sont très très liés, parce que la sexualité est également très violente. Mais enfin, il y a tout de même tous ces films pink qui se retrouvent dans les coffrets. Alors, il faudrait, Julien Sévillon, peut-être, et vos camarades, que vous évoquiez ce type de cinéma, qu'on retrouve d'ailleurs très représenté, presque très majoritairement représenté dans les coffrets de chez Blackout, comme des films comme Va, Vierge pour la deuxième fois, qui sont des titres extrêmement frappants, ou bien Running in Madness, Dying in Love, ou bien L'Extase des Anges, ou Les Anges Violés. Il y a beaucoup d'anges et beaucoup de viols chez Wakamatsu. Alors, qu'est-ce que c'était que ces films, quel genre d'histoire ils racontaient. Je crois que d'abord aussi qu'ils étaient tournés avec une extraordinaire rapidité, là aussi une influence, mais alors totalement multipliée, démultipliée de la Nouvelle Vague.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Nouvelle Vague avec Wakamatsu. A priori, Wakamatsu n'avait pas vu du tout Godard à l'époque. Ça fait partie, c'est vrai, des cinéastes, quand on discute avec les cinéastes japonais, ils vont tout de suite citer Godard.
Et Aoshima non plus, d'ailleurs, quand il a commencé, les films de Godard, il a commencé en même temps qu'à Bout de Souffle.
Mais c'est des cinéastes qui vont évoquer beaucoup plus tardivement, parce qu'ils se rendent compte que la critique occidentale est tellement marqué par cette nouvelle vague que s'ils arrivent avec cette espèce de CV, j'ai été influencé par Godard, ça va leur ouvrir certaines portes. Donc Wakamatsu se met à citer Godard tardivement, je pense à la fin des années 70, parce qu'il voit que ça marche. Mais lui en fait est vraiment il est issu d'un milieu plutôt classe moyenne. Il quitte sa famille, il se retrouve chez les Yakuza après certains problèmes. Il va quitter les Yakuza finalement après une peine de prison et il va se lancer dans la production. Les seules portes qui sont ouvertes à ce moment, c'est soit les majors, donc où lui, de par sa propre personnalité, ne peut pas rentrer parce que les majors ne produisent globalement que des yes men, des réalisateurs qui tournent à la commande. Et donc la seule porte ouverte à l'époque pour une production véritablement indépendante, ce sont des petites productions, des films érotiques qui durent entre 60-70 minutes, tournés avec des budgets ridicules, dont pour lesquels en fait très peu de ces films nous sont arrivés parce que énormément de copies ont été détruites. Pour Wakamatsu, effectivement, on ne sait pas exactement sa filmographie complète, lui cite 140. En tout cas, il y a au moins 60% de sa production qui est complètement invisible à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un point sur ce qu'il faisait véritablement à l'époque.
Vous pouvez nous parler tout de même de ses films érotiques.
Oui, tout à fait. Donc c'est des films qui tournent sans aucune autorisation. Chez lui, sur les toits de sa compagnie, dans la rue, avec des acteurs en fait, qui sont pas du tout des professionnels qu'il rencontre à droite et à gauche, dans des bars, que ses assistants lui présentent. Et donc, il cherche à faire des films véritablement qui se changent véritablement par rapport à ce qui se fait. La majorité des films pink qui sont faits à l'époque sont très soft.
Mais c'est tout de même différent des rois du porno en France, comme Max Pécasse et
José Benazera. Mais déjà, c'est avant. Ça se passe avant. Déjà, ils sont les Japonais ont une longueur d'avance. Mais ce sont des films qui sont effectivement très radicaux dans leur mise en scène de la violence, de la sexualité, et même tout simplement dans leur mise en scène. C'est vrai que c'est des films qui sont tellement libres en matière d'utilisation de la caméra, du montage, que Wakamatsu apparaît vraiment comme un franc-tireur dans le domaine. Très rapidement, alors la critique au Japon a du mal à l'accepter. Par contre, les étudiants trouvent tout de suite dans son cinéma un espèce de porte-parole en Wakamatsu. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'il réussit à la fois à toucher vraiment les classes populaires et à la fois une espèce d'intelligentsia adolescente ou révoltée, ce que d'autres réalisateurs ne réussissent pas à faire. Oshima, par exemple, ne touche pas du tout une classe populaire. Ça reste un cinéma assez intellectuel, on va dire.
Jean-Baptiste Auré.
Oui, c'est qu'en fait, tous ces films pink, c'est juste... c'est le principe, parce que du cheval de Troie, hein, tout simplement. C'est que c'est à l'intérieur du genre, que ce soit du film érotique, que ce soit du cinéma d'horreur, du film de Yakuza, peu importe, pouvoir faire un cinéma qui soit beaucoup plus personnel. Et de ce point de vue-là, Wakamatsu utilise le genre comme tous les grands auteurs qui ont travaillé à l'intérieur du genre, si ce n'est que là c'est un cinéma, effectivement un cinéma érotique, puis en plus en France on aime bien ça parce qu'un cinéma de genre est accepté si d'un seul coup il a un sous-texte politique évidemment important, et sous-texte politique en grosso modo toujours un sous-texte pour dire contre le système, donc un sous-texte de gauche classique. Enfin, on se souvient du traitement, on a commencé à accepter Carpenter en France le jour où on en a fait un cinéaste gauchiste, ce qui est quand même assez drôle, pareil pour Romero, La nuit mort vivant, enfin on connaît tout ça par cœur. Donc Wakamatsu, évidemment moment. Alors effectivement, il y a une dimension politique absolument incontestable. En même temps, c'est aussi un cinéaste, c'est-à-dire que la film, c'est pas un tract. Si c'est juste effectivement ce que pense Wakamatsu du Japon de la fin des années 60, Adachi, etc., au fond, on s'en moque pas mal. Je veux dire, on a affaire à des films, et donc qui doivent traiter de problèmes de mise en scène, etc., etc. Moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant chez Wakamatsu, c'est que enlever la dimension politique reste un cinéaste, reste quelque chose. Je veux dire, il y a que les mauvais cinéastes qui, lorsqu'on enlève la dimension tract, ne sont plus rien du tout. Et je pense que il y a une chose que je voulais dire aussi par rapport à la question du groupe et de l'individu, ce qui rend évidemment Wakamatsu extrêmement intéressant. Il y a un texte d'Oshima dans le bouquin que je trouve absolument formidable, qui raconte comment est-ce que Wakamatsu, et c'est ce que vous disiez, Julien, sur finalement le désir, la possibilité de Wakamatsu de s'intégrer à l'intérieur d'un système et donc d'une major, que ce soit la Shushiku, la Nikatsu, etc., etc. C'est finalement son désir de rester paria. Hein. C'est la position du discriminé lui va évidemment très très bien. Hein. Il y a beaucoup de cinéastes comme ça qui n'ont jamais franchi le pas. Mais ce qui est évidemment passionnant, c'est que à la fois il embrasse les moments contestataires de la fin des années 60, en même temps dès qu'il y a deux personne, en fait, dans les deux personnes, il y a viol, et dès qu'il y en a trois, il y a groupe collectif, et là, c'est foutu. Et le texte d'Oshima insiste bien sur ce qui travaille Wakamatsu sur la question, finalement, de l'individu et de la masse. Dès qu'il y a masse, autrement dit, dès qu'il y a collectif, dès qu'il y a groupe qui se forme, effectivement, il y a une dimension meute, bourreau, etc., etc. Et là, on pourrait presque dire que le danger survient. Et il dit très, très bien, lorsque la femme, finalement, est déchue de son statut d'individu dans l'embryon par braconné pour intégrer l'armée, finalement, anonyme de cette masse-là, là, elle peut devenir criminelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Wakamatsu a très vite conscience de ça. À la fois, seul on ne peut rien faire, hein, évidemment, c'est un mouvement désespéré, on va poser des bombes, on se fait exploser, etc., etc. Et en groupe, évidemment, il y a la reproduction du modèle qu'on veut combattre, donc on ne peut rien faire non plus, c'est l'échec, c'est Asama, etc. Donc il y a une dimension extrêmement, on pourrait dire, pessimiste dans le cinéma de Wakamatsu, et qu'on peut trouver optimiste si on considère, en tout cas moi c'est mon cas, qu'en fait ces films sont finalement des rêves de révolte, moins... finalement que beaucoup plus que des manifestes de révolte. Ce sont des rêves de révolte. De toute façon, les grands films contestataires finalement se terminent toujours sous la forme de rêve.
Mathieu Capel, sur cette dimension, disons, alors érotique, bien sûr, vous pouvez reprendre aussi, continuer le discours
non, pour parler, oui.
Jean-Baptiste Auré, mais comment vous vous situez ce cinéma pink ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Cinéma pink, oui. Alors, comme le rappelait Julien Cévéon, il apparaît un peu. Donc, Wakamatsu apparaît dans le cinéma pink à peu près au moment où le cinéma pink lui-même apparaît. Alors, c'est le début des les premiers films. On dit date de 62, mais effectivement, comme Julien Cévéon le rappelait, tous ces films-là, ils n'étaient pas prévus par leur compagnie pour durer et pour faire des anthologies après. Donc, il y a énormément de copies qui ont disparu. Donc Wakamatsu est arrivé dans ce cinéma pink. Et très 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 vite, hein, au bout de deux ans, il s'est fait connaître par le biais de scandales. Et d'ailleurs, des scandales, et c'est ça aussi qui est frappant dans l'érotisme chez Wakamatsu, qui, me semble-t-il, ont bien peu à voir avec la représentation de l'érotisme chez Wakamatsu, qui est sûrement pas celui, je dirais, qui est allé le plus loin en termes de représentation érotique. Il n'y a rien, je trouve, parfois de plus ennuyeux qu'une scène érotique filmée par Wakamatsu. Vous avez une fille, un mec, l'un sur l'autre, qui sont collés l'un à l'autre de façon strictement étanche pour éviter justement de faire apparaître quoi que ce soit de licencieux, puisque effectivement, cela est bien connu, la censure japonaise, la censure japonaise a cette particularité-là, que la pilosité pubienne est interdite, donc du coup on montre plutôt des aisselles. Mais il y a ceci aussi qui est frappant dans l'érotisme de Wakamatsu, c'est qu'effectivement il se situe, je trouve, souvent sur la tangente. Au moment où il chante effectivement les puissances destructrice, comme il le dit dans un film qui est l'un des bonnes surprises de la rétro de la Cinémathèque, c'est justement Sex Crimes, un crime sexuel qui est un petit peu un film théorique où il chante la possibilité, les puissances libératrices du sexe, et en même temps c'est quelqu'un qui fait des films d'exploitation et qui utilise pour ameuter le public aussi les corps nus, les filles dépoitraillées. Donc il y a quelque chose là aussi de contradictoire chez Wakamatsu.
Alors, ce qui est très intéressant, pour conclure sur une note un peu vers le présent, c'est dans ces coffrets de chez Blackout, les trois coffrets de quatre films chacun, les 12 films, ils sont présentés par des cinéastes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir non seulement c'est des cinéastes français qui se revendiquent de Wakamatsu, ce qui prouve l'influence qu'il a sur toute une génération, en tout cas tout un groupe de cinéastes, et en particulier des femmes qui sont très très groupies de Wakamatsu et de ses films Pink. Je pense à Lucile Aziyalilovitch, à Marina Devin, à Daniel Arbit, qui parlent de Wakamatsu avec beaucoup de passion. Et d'ailleurs, leurs films, surtout ceux de Lucile Aziyalilovitch et de Marina Devin, on voit bien ce qu'elles ont pu emprunter, mais il y a aussi des propos de Damien Odoul, de Gaspard Noé, de Christopher Gans, de critiques comme Jean-Pierre Brixou. C'est-à-dire que il y a toute une partie de la cinéphilie française et de la pratique du cinéma en France qui, d'une certaine façon, a retrouvé dans Wakamatsu un cinéaste proche d'eux. Je pense que ça, c'est une chose que je voulais signaler. Donc, dans ces coffrets, je voulais rappeler donc aussi le livre auquel collabore Jean-Baptiste Rey, un essai très important, qui s'appelle Wakamatsu, cinéaste de la révolte, avec des textes de Nagisa Oshima et de Koji Wakamatsu lui-même, aux éditions IMO, avec un DVD, donc La femme qui voulait mourir. Le livre de Julien Sébéon, Le cinéma enragé au Japon, alors qui chez Rouge Profond, qui est vraiment étend à d'autres cinéastes sur trois générations l'influence de Wakamatsu. Mais écoutez, merci beaucoup Julien Sébéon, Jean-Baptiste Thoret et Mathieu Capel, donc merci de nous avoir parlé de ce cinéaste japonais que l'on redécouvre, même s'il a été à la quinzaine des réalisateurs. Il a été en compétition à Berlin, mais c'est comme ça, c'est les morts vivants, ils ressuscitent à l'occasion d'événements comme ceux auxquels vous participez.
C'était Projection privée, spéciale Koji Wakamatsu, une émission proposée par Michel Simon, réalisée par Olivier Bétard, diffusée pour la première fois le 11 décembre 2010 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.